lettre coréenne. Bonjour à tous, merci d'être au rendez-vous pour ce nouveau numéro de Lettres coréennes. Cette semaine, nous vous proposons de lire ensemble la nouvelle de Hyun-dok, père qui attrape des papillons.
Le bus part pour Jeonho au crépuscule. Une chanson mélodieuse franchissait la colline verte pour parvenir aux oreilles de Baou. Le garçon, laissant paître son veau à proximité, s'installa à l'ombre d'un châtaignier et ouvrit son carnet de croquis. Il changea de position de temps en temps, suivant le mouvement de l'animal, et le regarda s'affairer à mâcher de l'herbe pour le dessiner avec son crayon. Soudainement, il s'arrêta et tendit l'oreille, mais il tourna le dos avec un sourire narquois comme pour montrer qu'il n'aimait pas entendre le chant.
Tout ce qu'il a appris à Séoul est d'une vulgaire chanson populaire.
Il y a quelque temps, Gyeong-hwan rentra de la capitale pour les vacances d'été. Si son visage était devenu plus pâle et s'il portait un costume avec un pantalon large et un chapeau à bord blond à la mode, il n'avait pas beaucoup changé. Il se vantait toujours de la beauté de Séoul et du prestige de son école, bavardait sur les vedettes de cinéma et attrapait des papillons avec les enfants du village, tout en chantant des chansons populaires peu sérieuses. Baou ne pourrait jamais approuver de telles pitreries.
Père qui attrape des papillons de Hyun-dok a été publié en 1946, un an après la libération de la Corée du joug colonial japonais. L'histoire se déroule dans un village rural dans les années 1930. Le personnage principal, Pao, a fini ses études primaires un an auparavant, mais n'a pas pu entrer au collège parce que sa famille n'était pas en mesure de soutenir financièrement ses études. Son ami d'enfance, Kyung-hwan, qui n'était pourtant pas un élève brillant, a réussi à s'inscrire dans un collège à Séoul, simplement parce qu'il était d'une famille aisée. Ce dernier est rentré à la maison pour les vacances et passe le temps à attraper des papillons sous prétexte de faire ses devoirs d'été.
De grands bruits venaient d'au-delà de la colline, puis un papillon virevoltait avant de se poser sur une branche basse d'un châtaignier. Baou put l'attraper facilement. Pendant quelques instants, il contempla sa forme splendide et ses couleurs éblouissantes. Il était sur le point de le relâcher lorsque Gyeong-hwan dévala la colline, balançant un filet à papillons. « Où est passé ce papillon? Tu ne l'as pas vu ?» Le visage de Gyeong-hwan s'illumina quand il vit l'insecte dans la main de Baou.
« Pourquoi donc tu tourmentes ces pauvres papillons avec tous ces enfants derrière toi ?»«
Ah, je ne fais pas ça pour m'amuser. Je dois en attraper un pour un devoir scolaire. Je dois faire un spécimen d'insecte. »
Tu chasses les papillons depuis plusieurs jours maintenant. Tu aurais pu en attraper au moins une centaine.
Ah, ils sont tous endommagés au cours du processus. Les ailes sont déchirées. Mais qu'est-ce que ça peut te faire que j'attrape des papillons ou non, espèce d'insolent?
Si tu en as besoin pour ton spécimen, j'en ai besoin pour mon dessin. Les papillons ne sont pas seulement là pour toi.
Personne dans ce village ne peut m'empêcher de faire ce que je veux. Comment oses-tu essayer de m'arrêter? Gyeong-hwan insinuait sarcastiquement qu'il était quelqu'un de prestigieux, le fils unique d'un riche superviseur de métairie, et non pas quelqu'un qui pouvait être réprimandé par un garçon qui faisait paître un veau. Baou, vexé comme un pou, rit d'un air moqueur et fit semblant de donner à son ami le papillon, mais il tenait les ailes de l'insecte entre ses doigts. Puis, il le laissa s'envoler. Gyeong-hwan lança un regard noir à Baou avant de dévaler la colline, après avoir ramassé un caillou et l'avoir jeté sur le veau.
Alors que Baou descend de la colline avec son veau, il voit Kyung-hwan chasser les insectes dans le champ de melon de sa famille de l'autre côté du ruisseau. Celui-ci piétine la nouvelle tige de melon en courant dans tous les sens. Il est clair que Kyung-hwan prend sa revanche sur Baou, car ce champ fournit à la famille de ce dernier de quoi vivre jusqu'à la récolte du riz. Baou traverse le ruisseau et se précipite dans cette direction-là. Hé, 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 tu ne vois pas où tu vas? Tu ne te soucies pas de gâcher la récolte de quelqu'un d'autre?
Qu'est-ce que cela te fait? Je trépigne ma terre familiale.
Ta terre familiale? Même si la terre appartient à ta famille, ces tiges sont à la mienne. Tu ruines les tiges de melon de ma famille.
Si tu te soucies tant de vos melons, pourquoi ne te soucies-tu pas que j'attrape des papillons? Je ne suis pas après pour le plaisir, tu sais bien.
Tu ne le fais peut-être pas pour le plaisir, mais nos melons sont destinés à être vendus au marché. Le papillon est-il plus important que la nourriture de ma famille?
Ma note scolaire en dépend. Pourquoi devrais-je me préoccuper de la situation financière de ta famille?
Quoi? Alors c'est comme ça que tu détruis notre champ de melons? Tu ne peux pas attraper des papillons ailleurs? Les deux garçons commencent à se battre. Ils ne se calment que lorsque les adultes viennent les séparer. Écoutons Bang Min-ho, professeur de littérature coréenne à l'Université nationale de Séoul, qui nous explique le statut social différent de ces deux personnages.
Cette nouvelle traite de la question des classes sociales dans les communautés rurales du point de vue d'un garçon. Le père de Gyeong-hwan est un malum, le superviseur de métairie, alors que le père de Bao est un métayer. C'est le malum qui conseille aux propriétaires fonciers de louer quelle parcelle de terre à quel agriculteur. De plus, la famille de Gyeong-hwan possède des terres, c'est pourquoi le garçon peut revendiquer le champ de melon comme le sien, tandis que Bao fait valoir son droit de propriété sur les tiges de melon. Cette scène à la fois amère et drôle montre comment ces garçons comprennent la question des classes dans une communauté rurale.
Cet après-midi-là, la mère de Bao reçoit un message des parents de Gyeong-hwan qui la convoque. Notre protagoniste se dit « Je n'ai rien fait de mal ». Mais il attend nerveusement que sa mère revienne de la maison de Gyeong-hwan. C'est alors que son père rentre.
Tu t'es battu avec quelqu'un dans le champ de melon? Va y jeter un coup d'œil et dis-moi s'il reste une seule tige intacte. Sais-tu combien de loyers nous devons payer pour ce champ? 10 sacs de riz. Nous devons payer le loyer et nous nourrir même si la récolte est mauvaise. Est-ce que cette pensée t'est même venue à l'esprit avant de te battre?
Je ne me suis battu avec personne. Gyeong-hwan piétinait sur les tiges, ce prétexte d'attraper un papillon. J'essayais donc de l'arrêter, c'est tout. Le père grommelle avant de chercher des outils pour réparer les tiges cassées. À ce moment-là, la mère rentre de chez Gyeong-hwan. Sans dire un mot, elle frappe le dos de Bao. Comment as-tu pu faire honte à ta mère comme ça? Va attraper un papillon et demande pardon à Gyeong-hwan.
Que s'est-il passé?
Pourquoi donc ne pouvait-il pas simplement laisser attraper des papillons? Sur ce, elle raconte à son mari ce qui s'est passé chez Gyeong-hwan. La mère de ce dernier lui a dit que si notre protagoniste n'apportait pas de papillons et ne s'excusait pas, la famille de Bao ne pourrait pas louer les terres à cultiver dès l'année suivante. Le père lance un regard furieux au garçon et la mère ne cesse de l'harceler. « Pourquoi es-tu si têtu? Veux-tu nous voir sans terre à cultiver? Dis-moi ce que tu penses !» Bao quitte la maison, cédant à la pression de sa mère, mais au lieu d'aller attraper des papillons, il regarde des vieillards du village jouer aux échecs. Il rentre chez lui au crépuscule et une scène inattendue le rend sans voix.
Le carnet de croquis qu'il chérissait tant gisait au sol devant le four, déchiré en 1000 morceaux. Il contemplait les pièces de papier lorsqu'il entendit soudain la voix de son père derrière lui. « Il est normal qu'un élève de Séoul attrape des papillons. Comment oses-tu lui faire obstacle ?» Bien que le dessin de Bao n'ait rien à voir avec toute cette affaire, le père ajouta « Et ne me laisse pas te voir dessiner quoi que ce soit à partir de maintenant. Tu ne pourras jamais devenir célèbre ni joindre les deux bouts avec le dessin. » L'homme âgé était sur le point de sortir, mais il demanda une nouvelle fois à son fils comme pour s'en assurer. « Et au fait, tu allais le voir avec un papillon ?» Le garçon se tenait là, la tête baissée en silence. « Qu'as-tu fait tout ce temps? N'as-tu pas vu ce que ton vieux père avait dû faire le printemps dernier pour cultiver ce champ? Pourquoi fais-tu tout ce mal? Allez, va t'excuser. » Le père braqua sa longue pipe sur la tête baissée du garçon. Bao évita le coup avec un mouvement de tête sans bouger d'un pouce. « Arrête d'être si têtu, sinon sors de chez moi pour de bon. »
À quoi bon s'excuser s'il n'apporte pas des papillons? Il fait trop sombre maintenant pour en attraper un. Alors tu iras demain, d'accord Bao? Allez, viens dîner. »
À quoi bon nourrir un tel ingrat? Chasse-le tout de suite. »
Le lendemain, le père fait jurer les garçons.
« Va lui demander pardon avec un papillon, sinon n'ose pas rentrer. »
Bao s'échappe subrepticement de la maison, sans même prendre de petit déjeuner.
« Même s'il devait se passer de 10 repas, il ne voulait pas aller attraper un papillon et s'incliner devant Yang Huan. Il était déçu par ses parents qui se moquaient bien de sauver la face de leur fils et ne demandaient qu'accepter leurs revendications. Il était en colère.
Pao monte sur la montagne derrière la maison et lève la tête vers le ciel. Au bout d'un certain temps, il descend, se demandant si ce ne serait pas mieux de s'enfuir de chez lui après tout.
Il était à peu près à mi-pente. Dans un champ de sarrasin de l'autre côté de la colline, il aperçut l'ombre blanche et floue d'un homme se penchant puis se redressant comme s'il poursuivait quelque chose.
Kanghan doit encore courir après les papillons.
Il continua à descendre, puis soudain se rendit compte que l'ombre appartenait à un homme adulte.
Kanghan a dû ordonner à l'un des valets de la ferme de faire son travail.
Une fois descendu de la montagne, il monta sur la colline de l'autre côté pour voir d'un peu plus près le champ de sarrasin. Il fut tellement sidéré par ce qu'il vit qu'il en resta bouche bée. Ce qu'il avait pris pour le valet de la famille de Kang Huan n'était autre que son propre père. Son père n'arrêtait pas de se baisser et de se redresser pour attraper des papillons, son chapeau à la main. L'homme âgé marchait sur le talus entre les champs à pas chancelants. Bao resta immobile, comme s'il avait été frappé à la tête, puis il glissa sur la pente vers le champ. Il ressentait à la fois de la pitié et de l'affection pour son père. Le garçon se dit qu'il pourrait faire n'importe quoi pour lui. Retenant ses larmes, il cria dans la direction du champ de sarrasin.
« Père ! Père ! Père !» Voici la critique littéraire Chen So-yang qui nous explique pourquoi le père de Pao attrape des papillons.
Déçu par ses parents, Bao monte sur la montagne pour réfléchir. Au bout d'un moment, il voit au loin quelqu'un se déplacer dans le champ de sarrasin. C'est son père qui est parti attraper des papillons à la place de son fils par une très chaude journée d'été. Le vieux fermier a réprimandé son fils parce qu'il s'inquiétait du gagne-pain de sa famille, mais il a dû le regretter après que Bao ait quitté la maison. Il est donc sorti pour attraper des papillons. En voyant son père, le fils ressent une sympathie et une affection profonde. Cette scène est décrite d'une manière touchante, mais elle est aussi triste puisqu'elle nous rappelle la dure réalité vécue par les paysans démunis de cette époque-là.
Ainsi se termine cette édition de Lettres coréennes consacrée à la nouvelle de Hyundok, père qui attrape des papillons. C'était Yun Yeni au micro avec Maxime Lalo au doublage et Kim Hong-joo à la réalisation. Nous vous invitons à découvrir notre nouvelle coréenne la semaine prochaine. Au revoir.